bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Business Club avec Maxime Collat et Roland Louvet. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ?
Merci Rudy, ça va super et vous ?
Ça va super.
Merci Rudy, ça va bien aussi ?
Ça va, au top. Donc je vais commencer cet épisode du Business Club en vous demandant de vous présenter respectivement.
Ça marche. Alors donc moi je m'appelle Maxime Collat, j'ai 27 ans, je suis un ancien nageur de la société de natation de Versailles. J'ai fait de la natation pendant 10 ans avec un parcours assez professionnel où à mon collège tous les après-midi je nageais. Ça a duré quelques années, après il a fallu faire un choix entre les études et la natation. J'ai choisi la voie des études où j'ai passé un master en sport business, spécialisation communication, marketing, sponsoring et bénévolat, qui est la fibre après de mes projets futurs et du moment. Et lors de ces études-là, donc, j'ai rencontré mon associé, qui va se présenter juste après, avec qui on a développé différents projets qu'on va développer juste après ces différentes présentations. Et donc aujourd'hui, le but aussi, c'est d'amener une nouvelle fibre à travers ces différents projets.
Ok.
Bonjour, et moi je suis Roland Louvet, je suis un peu le seigneur de la structure puisqu'on va fêter 40 ans de GWS Expersta dans la programmation technique et fonctionnelle. Et en fait, cette programmation est née du fait que j'ai été bénévole aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, car je suis canadien d'origine canadienne, ancien joueur semi-pro au hockey sur glace. Okay. Et je suis rentré très très vite dans le mouvement olympique, et j'ai assisté des villes candidates. Et surtout, le mot programmation étant un peu confus, des chercheurs de tête m'ont amené dans la Silicon Valley où je devais rester un an. Et finalement, je suis resté 10 ans à développer des applications sport et culture, notamment pour une société que vous connaissez peut-être, Mattel Interactive, et le CIO, où j'ai développé Olymp Logic et City Logic, des logiciels d'optimisation de candidature et de positionnement de grands événements sportifs pour les grandes villes.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre ? Comment vous avez tissé des liens par le sport ? Comment vous êtes rencontrés ?
C'est Amos. Donc Roland ici présent est un ancien gardien de hockey sur glace de l'équipe de France. Et donc notre fibre sportive et sa façon de penser aussi du sport business en lui-même, mais aussi du monde professionnel tout simplement, m'ont fait aller à sa rencontre, lui parler un petit peu des différents projets que j'avais dans la tête, que ce soit en activation, qui a fait naître Muséo, mais aussi un site internet qu'on est perpétuellement en train de développer, qui est apparu au moment du Covid. Donc ça a été assez compliqué pour le lancement. Mais aujourd'hui, c'est cette fibre numéro une aussi qui nous a fait vraiment nous connecter et développer après les projets.
De mon côté, à l'occasion d'une candidature à Paris qui s'appelait Paris 2012, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Toiti, qui était le fondateur d'Amos, et je suis devenu un des 5 cofondateurs d'Amos, la première académie du management des organisations. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Maxime, que j'ai adoré tout de suite, puisqu'il avait une fibre dans la gestion, dans l'organisation, et je cherchais à relever Expertstad avec une nouvelle génération. Et puis on a dialogué, il a découvert dans mon patrimoine personnel une valeur ajoutée que je sous-estimais, qui était en fait les flammes olympiques. Je collectionne les flammes olympiques depuis l'âge de 10 ans, j'en ai 6, j'en ai une 7e qui m'attend, il m'a dit si on faisait quelque chose. J'ai dit oui, c'est une bonne idée. J'avais travaillé pour le musée de Nice, qui est le transfert du musée du sport de Paris à Nice. J'avais proposé à l'époque de faire un musée mobile. On m'avait dit non, surtout pas, on ne touche pas la flamme olympique. Et je trouvais dommage de ne pas toucher la flamme olympique. Et Maxime, à force de dialogue, m'a convaincu de mettre en place un projet qui a été certifié, comment ils appellent ça, Olympiade culturelle de Paris 2024 par Paris 2024. Donc c'est une très belle reconnaissance de 40 ans de travail au niveau des Jeux Olympiques. Je vous dis 12 candidatures, 16 Olympiades, dont je suis très content.
Ok. Du coup, vous avez un peu commencé à nous parler de Muséo, mais quel est le concept de Muséo ? Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail ?
Alors, Muséo est né de par déjà notre passion commune par le sport, parce que moi le sport c'est personnel, j'ai réussi à en faire cette passion mon métier. Roland c'est aussi un petit peu la même chose, avec cette fibre bénévole qui est beaucoup plus amplifiée que moi, mais moi dès 14-15 ans j'étais chef d'équipe natation aux interclubs avec déjà des personnes d'une quarantaine d'années, d'une trentaine d'années, donc le bénévolat a toujours été cette fibre-là. Et okay. L'activation terrain, l'activation m'a toujours plu, l'activation terrain, le contact social m'a toujours plu, le partage m'a toujours plu, et donc cette idée de Muséo, c'était de prendre ces cinq flammes et de les emmener sur le terrain, de partager, de créer une activation, de créer des sentiments, des émotions. Et donc, de par mon passé d'athlète et le passé d'athlète de Roland, on a un réseau aussi d'athlètes de haut niveau qui nous ont permis de contacter des athlètes pour créer tout un réseau et tout un tas d'artefacts qu'aujourd'hui on met à contribution dans le Muséo. J'ai développé aussi des thématiques comme l'égalité des chances, le savoir-vivre ensemble, l'inclusion, le notoracisme qu'on connaît très bien dans le sport. Et j'image un petit peu toutes ces thématiques avec tous les objets que j'ai. Mais bien sûr, la fibre première aussi, c'est qu'à titre d'exemple, nos jeunes aujourd'hui veulent tout de suite, tout maintenant. Et aujourd'hui, moi, je leur offre le rêve olympique tout de suite, maintenant, ou à la fin de mes petites histoires, à la fin d'avoir développé mes thématiques, je leur permets de toucher les flammes, de les prendre entre les mains, de vivre le rêve, de se prendre en photo. Mmh. Et donc, c'est ce partage aussi de conscience de génération qui crée vraiment le buzz et qui nous a permis d'avoir cette labellisation Olympiade culturelle.
Ok.
Et en fait, le tout début de l'histoire, finalement, c'est en fait les objets qui sont intergénérationnels. Je suis à la troisième génération d'Olympien, entre guillemets, puisque j'ai mon arrière-grand-oncle qui s'appelait Maurice Louvet, qui était un proche de Pierre de Coubertin. Il avait des objets, des artefacts. Mon père était directeur général des Jeux Olympiques de Montréal pour la technologie. C'est lui qui m'a initié à l'informatique, notamment. Donc, j'ai des artefacts de Montréal et c'est comme ça que je suis devenu bénévole. Et depuis, j'ai participé à des Jeux Olympiques comme à Vancouver, Sochi, Paris maintenant, puisque je suis aussi ambassadeur du 9-3 pour les actions bénévoles dans les quartiers difficiles. Et puis Campus 2023 également, notamment. Donc, on a comme ça développé en 40 ans, puisque c'est mon 40e anniversaire dans le milieu du sport. On a développé en 40 ans un réseau relationnel, des amitiés qui, au lieu de se transformer en argent, se transformaient en dons, en cadeaux. Et on me les a donnés, les flammes olympiques. Ça vous paraît un peu étrange, mais on me les a donnés parce qu'ils étaient ravis du travail qu'on pouvait faire. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais l'un des seuls francophones. Quand j'étais en Russie, j'étais un des seuls Canadiens en plein boycott. Et ainsi de suite. Donc, c'est de l'amitié, tout ça. Et c'est multigénérationnel ou transgénérationnel. Et c'est ça la beauté aussi de notre relation qui a été remerciée par Paris 2024, par le label Olympiade culturelle.
Justement, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, mais vous parliez de l'objet. Et j'allais vous demander comment on fait pour acquérir justement des flammes olympiques, puisque c'est des objets très rares et... c'est pas accessible pour tous.
Oui, d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage de monétiser la flamme olympique, puisque c'était pas du tout l'esprit de Pierre de Coubertin tel que l'avait expliqué mon grand-oncle. C'était un objet, on va dire, un cérémonial pour exprimer la trêve. C'était le début et la fin d'une trêve. C'était pas un objet marketing. Je suis un spécialiste du marketing. J'étais directeur vente et marketing pour Mattel. J'ai mis en place les premières bases ICRM francophones. Et je sais très bien la valeur des objets comme la poupée Barbie ou comme les Hot Wheels, puisque c'est ce que je commercialisais. Et donc, je connais très bien la valeur des flammes. Mais jamais je me serais permis de vendre à 180 000 euros une flamme olympique qu'on n'a pas le droit de toucher, avec un cahier des charges de plusieurs pages qui interdit aux villes de toucher la flamme. Et donc, ça me paraissait légitime à ce moment-là, quand j'ai vu le cahier des charges, d'aller voir les villes de Terre des Jeux et leur proposer notamment le toucher de flamme, puisqu'ils allaient acquérir pour 180 000 euros des flammes olympiques, parce qu'il y avait une valeur marchande, alors que pour moi, la flamme olympique n'a aucune valeur marchande. On me les a données par amitié. Et c'est par la même amitié qu'avec Maxime, on a décidé de mettre à disposition et de faire rémunérer simplement les frais de déplacement, les frais d'assurance. Et 50% des frais servent soit pour fonder un lieu de rencontre pour les athlètes qui cherchent à faire des formations, soit tout simplement à soutenir des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés à dépasser, on va dire, 460 euros de recettes par mois pour aller à l'INSEP. Moi, je l'ai vécu personnellement, puisque j'ai participé à la rénovation de l'INSEP 2. Et je peux vous dire que c'est très compliqué pour un athlète qui vient de la campagne, comme en Normandie. Je pense à la famille Vastine qui font un travail extraordinaire en boxe. Et leurs pépites sont bloquées par l'argent. Mmh. Et les Flammes Olympiques de Paris ne servent pas à faire de l'argent pour un comité d'organisation. Ça sert à partager l'argent pour que le rêve olympique se perpétue. C'est né en Normandie et le projet est également né en Normandie.
Pour compléter aussi un petit peu ce que disait Roland sur le passage de Muséo, c'est que dans cet esprit d'égalité des chances, et là où on a vraiment réussi à créer et activer des choses auprès des villes, c'est que on passe partout, dans les écoles, dans les entreprises, dans les associations, dans les EHPAD. On a vraiment un champ d'activation qui répond à tous les besoins, toutes les demandes. Et aujourd'hui, partout où on passe, que ce soit à travers les familles, que ce soit à travers nos seniors, ça marque, il y a vraiment de l'émotion qui passe à travers ça, ça marque vraiment. Et donc, à titre d'exemple, on a pu faire des prestations auprès de Sport dans la Ville, les jeunes de Sport dans la Ville, donc l'une des plus grosses insertions des jeunes de quartier en difficulté par le sport. Et donc aujourd'hui, ça a vraiment créé un déclic auprès de ces jeunes-là qui, grâce à Muséo, ont passé à titre d'exemple une formation d'une vingtaine d'heures autour de la gestion de projets bénévoles, où ils ont eu un certificat de compétences métier que Roland expliquera un tout petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, Muséo est un projet d'ensemble qui ne s'arrête pas uniquement à des activations, vraiment à des partages. Et donc, ça crée une récurrence. Et aujourd'hui, il y a déjà des villes qui ont repositionné un événement Muséo ou plusieurs événements Muséo dans différents lieux parce que le projet est là et le projet est impactant. Et même quelques semaines après le passage de Muséo, les élus ont des échos de Muséo pour montrer aussi l'impact auprès des villes terres de jeu qui sont des fois un petit peu délaissées parce qu'elles sont pas proches de Paris. Et donc, c'est ça aussi l'esprit d'égalité des chances de Muséo, c'est d'être national, comme Roland l'a dit, d'aller partout en France.
Okay. Donc, il n'y a pas forcément un public qui est plus sensible. Vous touchez vraiment tout le monde. Et... Okay.
En fait, il faut comprendre que la France est très polyvalente, très multigénérationnelle. Il y a des régions qui sont plutôt jeunes, des plutôt en difficulté. Et les Flammes Olympiques répondent à tout type de problèmes. Et on voit le même regard des jeunes ou des personnes âgées qui touchent une flamme et on voit leurs yeux s'émerveiller devant un objet inanimé. Leur regard s'anime, que ce soit des personnes âgées en EHPAD, leurs petits-enfants qui les accompagnent, ou que ce soit des élus. Moi, j'ai vu des élus toucher la flamme et dire « Waouh, c'est ça une flamme olympique ?» Pas comme un bout de métal, mais comme un rêve que l'on se transmet. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu autant de flammes, parce que je travaille beaucoup avec le corps. C'est vrai, quand je donne des cours, je travaille beaucoup avec le corps. C'est pour ça que je vais en Inde, en Italie, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, parce que je joue beaucoup avec mon corps. Et la flamme olympique, c'est un mouvement du corps, de transmission. Et vraiment, le parcours de la flamme, sans le toucher, ça me paraît très intéressant pour l'image, mais le parcours de la flamme ou Muséo qui suit le parcours de la flamme comme un point de repère où on peut toucher une flamme en plus, ça change beaucoup de choses. Et je pense que les élus ne s'y trompent pas, et c'est vrai que depuis quelques jours, depuis qu'on a le label, on reçoit des appels des villes qui reçoivent le parcours de la flamme pour avoir un complément, un repère transgénérationnel et pas seulement pour simplement 5 personnes qui sont sélectionnées pour faire un parcours sur quelques centaines de mètres.
Dernier petit point sur le soutien auprès des athlètes. Ça, c'est un point très important. L'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un athlète en situation de handicap, Rafi Karabat. C'est un athlète de la Courneuve du 93 qui est en situation de handicap. Il fait du para-développé couché. Donc, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le développé couché, c'est une discipline en musculation où on a une longue barre avec des poids à gauche et à droite. Et le but, c'est de soulever cette barre avec la force de ses pecs et de ses épaules. Et aujourd'hui, Rafi, il est en pleine préparation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Coupe du Monde cet été, vice-champion d'Europe fin d'année dernière avec une barre à 211 kilos. Et donc aujourd'hui, Rafik est un exemple et Rafik est ancré dans le projet Muséo. Pourquoi ? Parce que face à certains jeunes qui ne comprennent pas aussi cet esprit, par exemple, d'égalité des chances, je leur explique moi mon passé de valide nageur et on parle de la vie de Rafik actuelle. Donc les soins, comment est-ce que Rafik fait pour se soigner, comment est-ce que Rafik fait pour vivre, parce que Rafik fait partie des athlètes qui touchent 400 euros tous les mois et qui a des difficultés à vivre. Et aujourd'hui, il est plus qu'heureux aussi de pouvoir participer à ces projets Muséo parce que ça lui permet de continuer de se faire connaître.
Et transmettre ses valeurs qui sont extraordinaires.
De transmettre ses valeurs qui sont collées à celles de Muséo, mais c'est surtout aussi de pouvoir avoir un gain financier grâce à cette prestation et donc lui permettre de mieux se préparer et de mieux anticiper ses échéances, comme par exemple, encore une fois, la Coupe du Monde qui arrive cet été, qui sera crucial pour lui pour les qualifications aux Jeux paralympiques de Paris.
modestement, Muséo permet de soutenir des jeunes potentiels de médailles qui ne sont pas dans le programme national, mais qui ont une chance d'ici 2024 de rentrer par leur performance dans le programme national. Le vrai problème, c'est l'entre-deux. Hein, c'est comme dans l'entre-deux-mer. Avant d'être un athlète reconnu, il faut être un athlète qui développe ses performances. Et c'est à ce moment-là où on voit les limites que j'ai vécues. Moi, j'ai vécu en HLM à Mantes-la-Jolie. C'était très dur pour moi, okay, puisque mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et pourtant, c'est le rêve olympique qui m'a permis de sortir des cités du Val-Fouré. C'est les Jeux olympiques qui m'ont permis de voyager sans argent, juste en étant bénévole, et juste parce que d'une Olympiade à l'autre, j'étais coopté et remercié, pas en argent, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a l'émotion, comme Rafik. Rafik, j'adore, c'est un jeune homme qui est un modèle pour moi. C'est comme ça que je vois les Jeux olympiques. Pour moi, la vraie flamme olympique, c'est pas le petit bout de métal que je partage, c'est Rafik. Voilà un exemple concret d'une vraie flamme olympique.
J'allais vous demander aussi quelles sont les étapes les plus marquantes que vous avez vécues grâce à l'expérience Muséo, justement. Parce qu'on parle de Rafik, mais je suppose qu'il y en a eu. Il y en a eu.
On peut parler du rugby, mais c'est vrai qu'en première expérience, déjà, ça a été la première tournée en Normandie l'année dernière. Parce que Muséo, moi, au début, je voyais ça sous la forme d'un petit camping-car qui se déplaçait. Muséo bus, un bus, ça se déplace. Donc moi, l'objectif, c'était de mettre ma collection dans mon camping-car et me déplacer. Mais au final, avec ce premier Muséo Tour Normandie, on va appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on a développé un fort partenariat avec Alain Vastine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la flamme d'Alexis Vastine des Jeux de Pékin 2008. Il faut savoir que le porte-drapeau lors de ces jeux-là, c'était Tony Estanguet, l'actuel président des Jeux de Paris 2024. Donc c'est une forte valeur aussi, une forte émotion qu'on a dans notre collection d'avoir cette flamme-là. Authentique, Alexis, qui est un très grand bonhomme de la boxe française, même de la boxe mondiale. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'Alain Vastine avait un rêve, c'était que quelqu'un puisse aussi partager l'histoire d'Alexis à travers ses flammes. Et donc le premier Muséo Tour en Normandie, faire vivre l'héritage d'Alexis. Mais c'est vrai que le premier Muséo Tour en Normandie, ça a été beaucoup de rebondissements, parce qu'au final beaucoup de personnes m'ont dit Muséo, c'est mieux sous forme de stand, parce que plus de personnes peuvent venir, il y a un partage beaucoup plus important, il y a une émotion qui transperce vraiment la foule, et puis tout le monde peut entendre les dires des uns des autres. Et donc forcément le premier Muséo Tour a été impactant. Mais après c'est vrai que ça s'est énormément enchaîné avec le rugby. Roland va revenir dessus dans quelques secondes, parce qu'il a été vraiment aussi l'un des acteurs principaux sur le développement de Muséo avec le rugby. Mais c'est vrai que Sport dans la ville a été une étape primordiale. Et puis après, toutes les villes qui ont pu nous faire confiance, des villes à titre d'exemple, Genasse, près de Lyon, énormément de villes en Ile-de-France, des villes près de, bien sûr, notre fédération dans le Grand Est, près de Mulhouse. Et donc, cette nationalisation aussi nous a fait vivre des émotions importantes, avec, encore une fois, cet esprit d'égalité. Et c'est là où on voit que la culture des Jeux Olympiques, en fonction des endroits où on se trouve en France, n'est pas la même. Et donc, ça nous permet, même moi, qui suis présent sur tous les museaux, ça me permet d'engendrer énormément de culture, de partage d'autres personnes, donc d'améliorer aussi le processus Muséo. Et donc, en toute transparence avec vous, pour répondre à votre question, c'est tous les jours de Muséo qu'on apprend et qu'on est émerveillé par ce projet-là.
C'est beau.
Oui, et puis on a eu des très belles expériences. C'est vrai que ça a commencé en Normandie, à quelques kilomètres du château de Diane de Coubertin, qui est également l'héritière de Pierre de Coubertin. C'est un bel hasard, hein, puisque c'est pas très loin de Pont-Audemer, là où j'étais président honoraire avec Alain Vastine, puisque il faut savoir qu'on a une expérience commune. Moi, j'étais programmiste des Jeux Olympiques de Pékin 2008, et son fils était porteur de la flamme olympique à Pékin en 2008. Donc on a une aventure commune, et cette aventure commune, elle s'est pas transformée en argent, elle s'est transformée en soutien financier pour ses propres athlètes, pour que le rêve d'Alexis, de son frère et surtout de Célia, aussi sa fille qui est décédée 2 mois avant Alexis, puisse perdurer. Et ça, c'est aussi un réel exemple de transmission. On a parlé de l'handicap, mais aussi il faut parler aussi du transgénérationnel entre Alain Vastine, Alexis Vastine, Célia, bien d'autres personnes qui permettent à des jeunes Normands, par exemple, si je prends cet exemple, où on est allé à Pont-Audemer, de poursuivre un rêve sur une troisième, voire une quatrième génération de sportifs, en se rappelant de l'héritage. C'est ça, le véritable héritage de Paris 2024, c'est pas l'héritage du futur, c'est l'héritage du passé. On a reçu, par exemple, d'une municipalité qui était ravie de ce que l'on a fait, une des premières affiches d'Amsterdam. C'est quoi, c'était Amsterdam ou Stockholm ? De Stockholm. Voilà, c'est une affiche originale. Donc, le succès vient avec le succès. Les artefacts viennent avec les expositions. On a changé de positionnement aussi. On demande aux gens de nous raconter leurs histoires familiales parce que ce que Maxime a vécu dans sa famille, ce que j'ai pu vivre sur 3 générations dans ma famille, ce que Diane de Coubertin a peut-être vécu aussi, on le retrouve partout en France. Toutes les familles ont des histoires à nous raconter et donc de l'activation marketing et sportif, ce que j'appellerais du RSE, okay, du vrai RSE, pas du greenwashing, hein, du véritable RSE, de transmission des valeurs de l'environnement sportif.
C'est bon. Justement, plus tôt dans ce podcast, vous nous avez parlé de votre implication en termes de bénévolat. Donc, vous êtes également impliqué dans la Fédération française du bénévolat et la vie associative en qualité de secrétaire général. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail justement de cette activité-là au sein de la fédération?
Je ne sais pas si vous connaissez l'ESS, l'économie sociale. C'est un peu le résumé de tout cela. J'ai eu la chance de commencer par le bénévolat. Dès 1976, j'étais bénévole. Dès 1984, j'étais également bénévole au niveau de la radio FM. Et puis la FFBA, qui portait un autre nom à l'époque, s'intéressait également aux droits voisins, aux droits SACEM, protection de l'image. Okay, du son, des auteurs, etc. Ça m'a beaucoup plu. Ça fait 40 ans que je suis leurs activités. Je dois vous avouer que j'ai perdu mon fils pendant le Covid. Okay. Ça a été un électrochoc. Okay, quand j'ai vu que mon propre fils avait perdu ses rêves parce qu'il se sentait isolé, je me suis dit, c'est peut-être moment de relancer les flammes. Et c'est vrai que l'idée de Maxime de relancer les flammes olympiques venait à un excellent moment. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de m'impliquer au niveau de l'exécutif de la FFBA. On comptait environ 15 000 membres. Et avec mes connaissances que j'ai développées en Californie, notamment avec le ICRM, on est monté à 58 000 membres club. Alors c'est vrai que c'est peut-être lié au fait qu'on s'est beaucoup tellement concentré sur les grands clubs visibles à la télévision qu'on en a oublié peut-être les toutes petites fédérations et les tout petits clubs de 2, 4, 6, 200 personnes et qui se sont sentis peut-être un peu en difficulté. Et donc nous avons développé des outils, notamment du crowdfunding gratuit, une application SACEM pour bien expliquer que c'était important de payer ses droits SACEM, qu'on soit un club de rugby, qu'on soit un club de danse, qu'on soit un club de théâtre, c'est très important. Et le message est bien passé. Et en plus de ça, moi, j'avais développé il y a quelques années Olymplogic, CityLogic. Eh bien, c'est des outils qui permettent à des petites fédérations d'aller peut-être accueillir des événements internationaux, évidemment pas dimensionné comme les Jeux Olympiques, mais je ne sais pas, un tournoi de e-sport en région centre pour la francophonie, c'est accessible. Un tournoi de théâtre francophone, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc, il y a des techniques que l'on partage maintenant, qui sont issues de nos 40 ans d'expérience. Bon, je suis passé au vote, bien entendu. J'ai été élu comme secrétaire général, adjoint. Et aujourd'hui, ma vocation, maintenant qu'on a atteint un chiffre quasi symbolique de 60 000, qu'on a atteint un deuxième chiffre quasi symbolique de 900 000 bénévoles au sein de la fédération. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement aussi important que la Fédération française de football. Mmh. Mais nous sommes invisibles. Comme dirait un maire que j'ai croisé qui ne comprenait pas le bénévolat, il me dit, mais monsieur Louvet, votre carrière, c'est du fake. Mais je lui dis, je ne comprends pas. Je vous amène des flammes, je vous amène une expérience. Non, mais vous n'avez aucun poste, vous n'avez aucun article sur vous. Mais j'ai dit, mais fort heureusement qu'il n'y a pas d'article pour moi. Il y a des articles autour des athlètes, c'est ça qui est important. Donc, mon implication à la Fédération française du bénévolat, ce n'est pas pour la visibilité, c'est pour s'assurer qu'on puisse continuer la pratique du sport dans une période de turbulence dans le bénévolat où certaines catégories ont perdu leur point de repère. Et la flamme olympique, c'est peut-être un moyen de relancer l'esprit bénévole et volontaire en France, de manière simple, économique, ludique, émotionnelle, transgénérationnelle, mais, mais pour des coûts très très minimes, quoi. C'est juste des certifications, comme là par exemple on avait développé pour la Fédération française de rugby, pour le modèle campus, en qualité d'ancien directeur d'Amos. J'étais devenu ce qu'on appelle coordinateur pédagogique sur 16 campus de Campus 2023. Et on a développé des certifications complémentaires. Hein. C'est bien sûr, c'est des modules de 7 heures, 12 heures, 15 heures qui sont en complément pour amener du savoir-vivre ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte, et moi personnellement, je l'ai vécu dans ma chair avec mon fils, si on ne fait pas attention, on peut très vite s'isoler. Hein, que ce soit dans des QPV, que ce soit dans des clubs, que ce soit chez soi, comme les personnes âgées, et sans se rendre compte, on est tellement isolé qu'on en perd le goût, on perd le goût, on perd les rêves. Mmh. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait évoluer Muséo, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a obtenu le label de Paris 2024. Bien qu'on ne soit pas directement impliqué dans la pratique du sport, il faut bien comprendre que pour un athlète se cache au moins 4,5 bénévoles. Tiens, regardez, vous invitez 10 000 athlètes pour Paris 2024, il faut 45 000 bénévoles. Vous voyez, c'est QFD, hein, c'est pas un chiffre lié au hasard. On a travaillé avec la commission de la simplification de la vie associative, on est arrivé au même résultat. Pour chaque action visible, vous avez 4 actions invisibles. Eh bien, la FFBA n'est pas connue, et on est très fiers de ne pas être connue d'ailleurs, hein, la Fédération française du bénévolat associatif, parce qu'on n'est pas une société à but lucratif. On est un peu particulier parce que nous demandons 0% de subvention, mais on demande aux membres d'être responsables, d'être volontaires pour amener quelque chose dans la société. Comme nous, à la base, nous amenons quelque chose à la société, du rêve par la flamme olympique.
Dans cet esprit aussi un petit peu de compétences métiers bénévolat, moi aujourd'hui aussi personnellement, et ça c'est un impact, je m'en suis rendu compte sur le terrain, que ce soit avec les jeunes de sport dans la ville, même les jeunes de campus, même mes différentes, si je peux dire, visios que j'ai pu faire en lien avec cet esprit de formation, c'est qu'aujourd'hui, moi voilà, j'ai fait de la natation, donc au bout d'un moment, tu penses aussi au haut niveau. Quand ça marche, tu te dis pourquoi pas. Et quand ça marche pas, tu te dis qu'est-ce qu'on fait ? Reconversion. Et donc par rapport à ça, moi je sais qu'aujourd'hui, forcément avec la natation et cet esprit de haut niveau, tu te dis les championnats du monde un jour peut-être, les JO peut-être. Et quand ça marche pas, tu te refocuses un petit peu sur ça. Et moi ce que j'essaie de faire comprendre aussi aux jeunes à travers ces différentes compétences métiers, gestion de projet de vie associative, comment développer un club de sport, comment avoir une bonne transversalité entre son club et sa fédération. Aujourd'hui, moi, je fais comprendre aux jeunes qu'à 27 ans, j'ai 5 flammes olympiques chez moi. Je suis formateur auprès du projet Campus 2023. Je suis formateur auprès de Sport dans la Ville. Je suis membre jury et correcteur de copie pour le CIG, Paris Grande Couronne. Donc, toutes les personnes qui souhaitent travailler dans les collectivités, dans des villes, viennent exposer un projet et puis nous, on les valide ou non. Et donc, aujourd'hui, toutes ces fibres-là m'ont permis d'être l'un des ambassadeurs bénévoles de la Fédération française en Île-de-France. Et donc aujourd'hui, tous ces biais-là apportent une vraie plus-value terrain parce qu'aujourd'hui, les jeunes que j'ai eu la chance de coacher à campus, par exemple, ont eu 100% d'employabilité, ont eu 100% de taux de succès et aujourd'hui ont réussi à développer leur réseau bénévole leur permettant d'avoir un autre poste ou plusieurs possibilités d'employabilité pour la rentrée. Donc c'est vraiment quelque chose d'impactant, c'est vraiment un fait impactant. Et aujourd'hui, pour finir sur cet esprit de formation, c'est qu'en binôme, la chance de ce que j'ai pu faire, parce que j'ai eu une petite partie aussi à la Française des Jeux, donc ça attire beaucoup les jeunes, où j'ai coté un petit peu les matchs de tennis, aujourd'hui, le parcours de Roland, mon parcours, et cette transgénéralité qu'on peut partager comme ça, ça permet vraiment d'impacter les jeunes et de leur comprendre que quand on veut, quand on peut, tout est possible.
Oui, ce qui est important, c'est le côté rêve, okay, la passation du rêve. L'héritage, en fait, souvent on l'imagine vers le futur. C'est un peu ce que fait Paris 2024. Nous, on l'imagine vers le passé. C'est ça la différence. Et ces racines, parce que finalement, on devient des racines, les racines de Pierre de Coubertin. Les feuilles sont peut-être critiquables, mais les racines, c'est quand même quelque chose qui reste. Les objets sont la représentation de ces racines. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a besoin de repères. Mmh. Et quelquefois, on l'a vu avec le Covid, on perd ses points de repère quand on reste isolé dans son appartement pendant quelques semaines. Mmh. On retrouve ses repères grâce à l'union. Et en fait, ce que je découvre tranquillement, et j'essaie de comprendre comment on est arrivé de 15 000 clubs à 60 000 clubs, c'est notre objectif pour 2024, à la FFBA, c'est tout simplement parce qu'on a développé une union, en fait, où chaque membre de la fédération amène un petit quelque chose. Le théâtre nous permet d'amener une certaine logique de gestion des événements. De mon côté, j'amène une certaine logique de la base CRM et également financière avec le développement qu'on a fait ensemble d'ailleurs, hein, qui s'appelle Sport Funding, qui est un système de crowdfunding gratuit pour les membres. Et on essaie comme ça de développer en union de compétences des rêves. Et ça marche. Je vous dis, même quand on va sur le terrain, on a des familles qui viennent nous apporter des t-shirts signés, des maillots signés. Et ça me rappelle un peu le musée de Caen. Je ne sais pas si vous vous rappelez du musée de Caen de la résistance ou de la résilience.
Non.
C'était une idée de France Télévisions au départ sur des reportages de grands résistants, et comme ma grand-mère d'ailleurs, qui était chef de réseau, elle s'appelait Hélène Prunier. Et finalement, chaque résistant donnait un artefact,
okay.
Une caricature d'Hitler, des fausses bombes, des photos, etc. Ils en ont collecté tellement qu'ils ont réussi à créer un musée. Donc là, mon rêve en tant que ancien directeur vente et marketing chez Mattel, c'est d'imaginer une vente et un marketing de muséo pour devenir un musée itinérant avec un point de repère qu'une ville parmi tant de terres des jeux nous inviterait à développer ensemble. Parce que notre idée, c'est pas faire d'argent, c'est vraiment pas. Notre idée, c'est de partager et de faire une union de valeurs autour du sport. Et le e-sport en fait partie.
Okay.
Le hip-hop en fait partie.
Ok. Il y a tout cet aspect culturel, finalement.
Sport, culture, éducation,
okay.
Et surtout sociétal. Mmh. Parce que je pense qu'on manque de points de repère. Le CNOSF le comprend bien. D'ailleurs, ils nous ont invités à rentrer au CNOSF. Okay. Et puis, on a aussi une autre organisation qui nous invite à rentrer. C'est l'ONGSO. Puisqu'ils se rendent compte également que ce mouvement donc des fédérations non gouvernementales au niveau de l'échelle européenne a quelques difficultés, les mêmes que la France, à recruter des bénévoles. Et donc, ils se posent la question comment on a pu, dans une période de crise où les fédérations ont une baisse de la pratique, comment ça se fait que nous, notre fédération française du bénévolat, on se retrouve avec un COEF 2, 3, peut-être bientôt 4 d'adhérents. Et ça s'explique. C'est l'union, le partage, sans subvention. Tout est un esprit volontaire, dans le sens bénévole du terme.
Mmh, bien sûr.
Et je rajouterais aussi même que c'est l'humain avant tout. À titre d'exemple, au mois de septembre, on a une activation avec la FM Téléthon sur cet esprit de partage, de mise en avant, de valeur, de bénévolat. Et donc aujourd'hui, si la FM Téléthon fait aussi appel à Muséo, ça montre aussi l'impact vis-à-vis du bénévolat national et vis-à-vis aussi de l'image nationale qu'on a réussi à acquérir aujourd'hui sur cette partie culturelle et historique. Parce que muséo, beaucoup de personnes me disent sport, 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 oui sport, mais bénévolat. Sport, culture, bénévolat. C'est vraiment les trois mots qui permettent de représenter le projet muséo.
Et d'ailleurs Paris 2024 ne s'est pas trompé en nous donnant le label Olympiade culturelle.
Ok. Maintenant, j'aimerais vous parler plus du projet Sport Funding. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé vraiment à monter cette plateforme ?
Alors, cette plateforme vient de différents niveaux de besoins. D'abord, moi, j'ai passé une dizaine d'années dans la Silicon Valley. J'ai fait mes premiers levées de fonds avec le Téléthon au Canada, qui avait bien fonctionné. Et il nous manquait à l'époque, on est en 90, il nous manquait à l'époque des plateformes. La FM Téléthon a développé sa propre plateforme, mais ils ont du volume. C'est presque 37 millions de chiffres d'affaires de dons, etc. Donc, ils ont les moyens de se développer des plateformes. Mais nous, à la FFBA, on n'a que des micro-fédérations. Le hip-hop, c'est peut-être 200 ou 300 clubs. Le théâtre, c'est peut-être une cinquantaine de clubs. Et ainsi de suite. On a 27% de nos licenciés qui sont au niveau du sport, 24% au niveau de la culture, 24% aussi, je crois, au niveau de la santé. Et donc, du coup, ça fait des... individuellement, ils ne sont pas capables de développer des applications de levée de fonds. Donc l'idée est venue, en parlant avec la FFBA, de développer sur nos propres fonds, donc sportfunding.fr, pour que des jeunes qui sont en recherche de soutien financier, au-delà des subventions, au-delà des soutiens de leur fédération, puissent aller simplement compléter leur budget. Il ne s'agit pas de crowdfunding comme on l'entend, je dirais plutôt c'est du cross-funding. Ça ne sert pas à faire une levée de fonds totale sur un projet. Ça sert simplement à compléter un manque. Par exemple, un jeune athlète qui va à l'INSEP, tout est pris en charge au niveau de la formation, l'hébergement, l'entraînement à l'INSEP, mais il y a une chose qui n'est pas prise, et je peux vous le dire, puisque j'ai travaillé sur ce type de projet, c'est le transport. Alors, pour un Parisien, c'est invisible, mais pour un Normand, eh ben c'est 150 euros, voire 300 euros par mois. Option numéro 1, c'est les parents. Moi, mes parents ont fait des efforts considérables pour que je puisse me déplacer sur Paris. Mais tous les Normands, par exemple, n'ont pas les moyens. Et si vous venez de Bordeaux et que votre discipline, l'entraînement est à Paris, ben c'est peut-être un 600 euros que vous devez dépenser. Mais où vont-ils chercher ces fonds? On ne peut pas demander aux élus territoriaux de payer pour un potentiel sportif élite. Donc, il y a d'autres solutions. Et donc, on s'est dit avec la FFBA, et si on lançait sportfunding.fr, donc on a obtenu tous les agréments en fait. On a TRACFIN pour éviter les détournements de fonds. On a ORIAS parce que finalement il y a quand même des collectes de fonds. Il y a une transparence totale. Et c'est que des petits montants. C'est pas des projets à 2000 euros. Souvent on me dit mais ton site il est mort, il fonctionne pas parce qu'il cherche des trucs à 100, 200 000 euros. C'est pas ça sportfunding. C'est de l'union et de la solidarité. Et on essaie d'entraîner les jeunes à se dire, mais toi, tu n'as pas de déduction fiscale. Mais nous, on a une déduction fiscale puisqu'on est d'utilité publique, mais tu as le réseau. Ce n'est pas nous qui allons te donner l'argent. Mais on va t'éduquer pour que tu puisses solliciter ton réseau sur des montants raisonnables. Et une fois que tu as ces montants raisonnables, tu vas vivre ton rêve. Comme nous, Maxime et moi, on l'a fait il y a quelques années. Mais les temps sont plus durs que dans les années 2000 ou dans les années 90. Et donc, voilà, c'est un petit coup de pouce. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas l'application du siècle. Hein. Mais ça
aide. C'est vraiment de l'accompagnement.
C'est de l'accompagnement. C'est pas tellement l'argent qui est important. Mmh. D'ailleurs, la plupart vont faire que 200, 300 euros. Parce qu'on n'est pas une société à but lucratif. Ouais. Donc, du coup, on les accompagne. Et je fais ce que je faisais quand je suis directeur vente et marketing, je leur apprends à acheter un projet et non pas à le vendre. Trop souvent dans les écoles de commerce, on apprend à vendre et on oublie comment acheter un projet. Et donc nous, on les accompagne dans l'achat d'un projet, comment leurs familles peuvent adhérer à leur projet. Et vous savez quoi? Ils viennent pour 300 euros et ils ne reviennent plus après parce qu'on sait, et on est soulagé, on sait que le gamin peut vivre son rêve parce que probablement qu'il a réussi à trouver 300 euros par mois pour aller à l'INSEP, pour aller au centre élite régionaux, parce qu'il y a beaucoup de délocalisations aujourd'hui, mais même une délocalisation en Aquitaine, par exemple. Il y a des gamins qui vont quand même faire 150 km. Chaque aller-retour, et trois fois par semaine, comme moi je faisais, par exemple, ben, très rapidement, même en Aquitaine, c'est 300 euros. Même à Nice, ça peut être plus. Vous êtes nageur sur PACA, vous allez à Nice, vous allez à Marseille. Ben, en TGV, c'est quand même du 150 euros à chaque fois. Quoi.
Et donc après, dans le fond, pour résumer, parce que je vais utiliser aussi ce mot que Roland a utilisé au début, qui est très important, parce que c'est la fibre aussi de ce site sportfunding, c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est des cercles vertueux. C'est que même le donateur, bah forcément, il aura un retour positif, soit à travers l'image du jeune qu'il a aidé, soit à travers, bien sûr, le rescrit fiscal, soit à travers une visibilité complémentaire, mais il n'y a pas que les jeunes aussi. Parce que nous, la FFBA, bah, sport, culture, théâtre, loisirs, tourisme. Et donc, on aide aussi toutes ces petites associations, toutes ces différentes petites associations qui ont du mal à développer des petits projets, même locaux, qui font des demandes de subventions de 1 000, 1 500, 2 000 euros auprès de leur ville, département, qui sont refusées. Bah aujourd'hui, Sportfunding est aussi une solution complémentaire à ces petits clubs, ces petites associations, encore une fois, pas que sportives, qui souffrent et qui ont besoin d'un petit coup de main ESS, d'économie sociale et solidaire, leur permettant, bah, bien sûr, de développer leur événement local. Mais après, encore une fois, on est toujours sur cet esprit de cercle vertueux, parce qu'aujourd'hui, les temps sont tellement durs, comme Roland l'a dit, que localement parlant, beaucoup d'événements musicaux, sportifs, théâtraux sont annulés. Et donc, bah, c'est toute la vie d'un village, par exemple, qui est à l'abandon à cause de ces annulations d'événements. Et donc, aujourd'hui, Sportfunding est aussi une solution permettant de reconduire aussi un petit peu à tous ces petits événements locaux, parce qu'encore une fois, à grande échelle, quand on voit dans les grandes villes les grands événements sportifs, musicaux, autres, bah, ils ont lieu. Mmh. Et donc, c'est pour aider aussi à contrer ça, parce qu'encore une fois, la FFBA est nationale. L'une de nos valeurs fortes avec la FFBA, c'est l'égalité des chances. Et donc, bah, dans cet esprit d'égalité des chances, c'est bien de s'occuper des gros, mais il faut savoir aussi s'occuper des petits. Et donc, nous, c'est une mission aussi qu'on a développée à travers les différents ZUDAI régionaux qu'on a, qui nous permettent de compléter aussi ce réseau-là.
On ne s'appelle pas Ligue, on s'appelle Union. On a des unions départementales, des unions régionales, parce qu'on aime ce principe de partager nos valeurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un succès et qu'en 2-3 ans, je vous ai dit, on est passé de 15 000 à presque 60 000 clubs. C'est du jamais vu. Alors c'est vrai qu'on est hyper motivé. C'est vrai que Paris 2024 est un facteur d'accélération des besoins. C'est vrai. Et ça permet aussi de prendre conscience qu'il y a dans le marketing sportif deux niveaux de marketing sportif. Il y a celui que je connais bien en ayant développé Amos, en travaillant pour ESG et d'autres écoles, qui est le marketing sportif avec un emploi rémunéré. Mais n'oublions pas qu'il y a également d'autres emplois non rémunérés qui sont très importants pour la vie associative des petits clubs, et qui peuvent amener, et c'est ce qu'on a démontré avec Campus 2023 et les modules complémentaires qu'on a développés, à des emplois. Alors, ce n'est pas des emplois en club, c'est vrai, mais avec les certifications de compétences de la FFBA, on arrive à démontrer aux jeunes que s'ils s'impliquent vraiment dans leur sport club, dans des petites villes de 2000 habitants, 5000 habitants, ils vont être en relation avec les entrepreneurs du coin, et ils peuvent trouver du travail avec les entrepreneurs du coin. Et c'est ça qui est important. Et donc, ils peuvent continuer, entre guillemets, à transmettre leurs valeurs sportives en étant rémunérés d'une autre manière pour continuer à partager ces valeurs sportives. C'est une nouvelle façon de voir l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas de dire on va créer des managers du sport rémunérés. Mais vous voyez, par exemple, avec ESG, on est en train de développer des modules pour démontrer qu'on est capable de développer des métiers du sport en dehors des clubs, mais pour les clubs. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que Cosmos ou RNCP doivent essayer de revoir leur copie. Aujourd'hui, on est tellement lié à des normes précises d'employabilité rémunérée qu'on oublie les valeurs du travail non rémunéré, ce que j'appelle du bénévole, qui peuvent amener du volontariat. Le volontariat, c'est quoi pour moi en Amérique du Nord? C'est des gens qui travaillent chez Disney, c'est des gens qui travaillent chez Amazon, qui vont donner du temps parce qu'ils sont sponsors, et c'est leurs employés qui vont donner du temps à leur événement. Atos, depuis les années 92, moi je les ai vus pour la première fois lors des Jeux d'Atlanta. J'étais surpris de voir qu'il y avait 200 ingénieurs d'Atos en Espagne qui étaient venus à Atlanta s'occuper des bases de données du CIO pendant les Jeux d'Atlanta pour remplacer IBM. Et ils ont fait ça gratuitement à leur niveau, mais rémunéré par Atos. Okay. C'est ça l'avenir de l'ESS. Et j'y crois énormément. Et avec ESG, c'est ce qu'on est en train de développer, ce type de prise de conscience RNCP, de dire que ce n'est pas l'employabilité directe qu'il faut compter, c'est l'employabilité club et ESS entreprise.
Ok. Pour conclure ce podcast, qu'est-ce que vous aimeriez délivrer comme message à ceux qui vont l'écouter?
Si je devais un petit peu conclure un petit peu, c'est même si on est en train de parler de marketing, même si on est en train de parler de positionnement stratégique, il est très important de croire en ses rêves. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a dit « Mais Roland, arrête de rêver, on va aux Jeux Olympiques qu'une fois. » Ça fait 16 fois que je vais aux Jeux Olympiques et grâce à Paris 2024, j'atteins mon rêve, parce que mon rêve c'était d'y aller 16 fois. On m'a dit « C'est pas possible, on peut y aller une fois, deux fois, quatre fois maximum. »
16 fois.
16 fois j'y suis allé. Mais malheureusement, les caméras étaient de l'autre côté. Donc nous sommes invisibles, mais les jeunes. Ne cherchez pas à tout mettre sur Internet. Vivez. Si je peux donner un message, c'est vivez vos rêves et vous verrez plus tard, vous serez heureux de les partager, trois petits points, avec vos enfants. Et c'est ça qui est important, c'est de le partager autour de son cercle familial. Et déjà là, c'est une très très grande victoire. Voilà. Okay. C'est ça, Muséo aussi.
Ok, parfait, parfait. C'est top, en tout cas, félicitations à vous deux. Et merci aussi d'avoir répondu présent à cette invitation.
Merci beaucoup, Rudy. Merci, Sport Stratégie.
Merci, merci. Et merci à nos auditeurs d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode du Business Club. À bientôt.